Crime et justice, la saga judiciaire de Midi Libre. Un récit écrit et raconté par François Barrère de la rédaction de Midi Libre.
Août 1996, l'affaire Kevin Mathieu, la carabine et Marie-Lou. Une adolescente de 13 ans, tuée d'une balle dans le dos, un après-midi d'été, dans une cité de Montpellier. Les policiers ont beau fouiller les immeubles alentour, interroger tous les témoins, personne ne parvient à comprendre les raisons de la mort de Marie-Lou. Jusqu'à ce que, tenaillé par le remords, Kevin, un garçon de 18 ans, finisse par se livrer au commissariat. Je me tenais à ses côtés, à peine à 20 cm d'elle. Subitement, j'ai entendu un léger sifflement et en même temps, j'ai vu Marie-Lou qui se tenait avec les deux mains à la gorge, raconte Johnny, 15 ans. Avant de tomber, elle s'est agrippée au grillage de mon balcon et elle m'a dit « J'ai mal, je vais crever ». C'était le dernier jour du mois d'août, un de ces samedis où l'été glisse en pente douce dans une cité de Montpellier écrasée par la chaleur. Un simple sifflement dans l'air et Marie-Lou, 13 ans, s'affale entre deux scooters, frappée au cœur par une balle venue d'on ne sait où. Quand les policiers arrivent à la cité de la Pompignane, ce 31 août 1996, vers 18h30, cette adolescente belle comme un cœur a déjà cessé de vivre. Dans le quartier, Marie-Lou faisait chavirer le cœur des garçons en chantant Céline Dion et les Gypsy Kings, tout en rêvant de devenir vétérinaire ou puéricultrice un jour, plus tard, quand elle serait grande. Elle était là, comme tous les jours, assise au pied du bâtiment 12, avec Virginie, sa meilleure copine, Albert, Johnny et Michael, venus sur leurs deux roues pétaradant depuis Montauberou, la cité gitane d'à côté.
Elle n'était pas gitane et sa famille non plus, mais elle était tout le temps avec des gitans.
Explique Virginie, 14 ans, aux enquêteurs de la PJ, chargés d'élucider ce meurtre hors norme qui fait grand bruit.
Elle avait beaucoup de flirts pour s'amuser et parce qu'elle était jolie. Pour se marier, elle hésitait entre Albert et Michael.
Virginie était avec Marie-Lou 15 jours plus tôt, quand des balles avaient déjà déchiré l'atmosphère tranquille de la Pompignane. Le projectile avait frôlé les deux gamines, les mères avaient porté plainte et rien ne s'était passé. Mais cette fois, la police est partout. Une heure après le crime, 4 des 22 immeubles du quartier surplombant le lieu du drame sont bouclés et les perquisitions s'enchaînent dans les appartements situés dans la ligne du tir. Beaucoup sont vides en cette fin d'été. On saisit quelques fusils, mais aucun ne correspond au calibre 22 qui a frappé Marie-Lou. On interroge les voisins, les proches, qui disent tous que le quartier est tranquille. Si ce n'est, ces dernières semaines, le bruit des allées et venues des jeunes à scooter qui cassent les oreilles de tout le monde.
Pour moi, c'est du racisme.
S'indigne la mère de Marie-Lou le 1er septembre.
Le tireur devait viser des petits gitans et c'est ma fille qui a pris.
Patricia, la mère de Virginie, opine. S'ils ne veulent pas vivre en collectivité, qu'ils partent habiter dans un mas, à la campagne. Devant le rez-de-chaussée du bâtiment 12, là où Marie-Lou est tombée, les fleurs, les photos et les statues de la Vierge s'entassent. Le mardi soir, des jeunes y veillent toute la nuit et le lendemain, ils organisent un cortège de scooters pour le dernier voyage de Marie-Lou jusqu'au cimetière Saint-Lazare. Et pendant ce temps, les policiers sèchent. Ils ont tenté de reconstituer la trajectoire de la balle en repositionnant les amis de Marie-Lou devant le balcon où elle est morte. Ils ont recensé les incidents survenus ces derniers temps que ne s'esquisse la moindre piste crédible.
Crime et justice, la saga judiciaire.
Il y a bien eu cette altercation, 6 mois plus tôt, entre Marie-Lou et 4 femmes gitanes qui lui reprochaient de fréquenter un homme marié. Mais le sentiment des policiers est clair. Rien de tout cela ne semble très solide pour justifier un tel crime. Le mercredi 4 septembre, il se prépare à surveiller discrètement les obsèques, prévues à 16h, lorsque survient un coup de théâtre. Il est 13h. Deux hommes se présentent à l'accueil de l'hôtel de police. Marcel Mathieu, 44 ans, employé au service municipal funéraire, et Kevin, son fils, 18 ans. Ils habitent au troisième étage du bâtiment 20. Kevin, apprenti charcutier, qui a grandi à la Pompignane, ne s'y est jamais fait remarquer. Il est perçu comme un garçon sage et sérieux. Et Kevin raconte.
Samedi vers 17h, j'ai vu un oiseau relativement gros qui se posait sur l'arbre au milieu de la cour. J'ai pris la carabine dont je m'étais déjà servi pour tirer au vol sur des oiseaux qui passaient devant ce même arbre.
L'arme équipée d'un silencieux était dans la chambre des parents, absent au moment des faits. Kevin tire, l'oiseau s'envole, il ramasse la douille sur la moquette et va jouer à un jeu vidéo.
Vers 18h15, j'ai vu les pompiers devant l'immeuble. J'ai immédiatement pensé que j'avais pu blesser quelqu'un en tirant sur l'oiseau. Je regrette mon geste, qui est accidentel. Je n'aime pas la violence, ni les armes. J'ai tiré pour passer le temps.
Le dimanche soir, il a tout avoué à ses parents.
Mon père m'a prévenu que j'irais tout droit en prison, que ma vie serait gâchée. Il m'a dit qu'il allait faire disparaître l'arme.
Marcel Mathieu confirme. Il a tronçonné la carabine qu'il a jetée dans la garrigue.
Je n'ai pas dormi de la nuit. J'hésitais entre l'envie de protéger mon fils ou de tout dire à la police.
En perquisitionnant l'appartement, les policiers découvrent un mini-arsenal. Deux revolvers, un pistolet automatique, deux carabines à plomb, un fusil de chasse, plus de 350 cartouches.
J'aurais jamais dû garder tout ça à la maison,
on reconnaît Marcel.
Je ne m'en suis jamais servi. Je ne suis pas chasseur, ni rien. Ça me venait de mon père. Avec ces saloperies, on a déchiré deux familles.
Mais Kevin, lui, n'a pas tout dit. Il passe aux aveux complets le 5 octobre, dans la matinée.
J'ai inventé de toutes pièces cette histoire d'oiseau. Cet été, j'ai été arrêté par la police parce que je ne portais pas de casque sur la moto. J'étais excédé par le fait que les amis de Marie-Lou roulaient son casque. Et sur des jardins qui provoquent un bruit infernal. Et ce, en toute impunité. C'est alors que j'ai pris la décision de leur faire peur.
Le 9 août, ils tirent vers le groupe.
Les jours qui ont suivi, les scooters se sont fait rares dans la cité.
Ce 31 août fatal, depuis sa fenêtre, il dit n'avoir vu
que la moitié arrière d'un scooter avec un individu assis. Pour lui faire peur, j'ai déplacé mon tir sur la gauche, vers les feuillages. J'ignorais que Marie-Lou était derrière les feuillages.
Le lendemain, Kevin, le garçon sage, est mis en examen pour meurtre sur mineur de 15 ans.
C'est normal qu'on m'ait envoyé en prison pour la famille, pour moi, pour Marie-Lou. Ça aurait été ma fille qu'on aurait tuée.
L'instruction écartera l'intention homicide. Les jurés de l'héros aussi, le 16 septembre 1997, qui le condamneront à 6 ans de prison pour violence mortelle avec arme. L'arme, cette carabine qui a coûté la vie à Marie-Lou, la petite star de la cité de la Pompignane.
Midi Libre.
Midi Libre. Les podcasts de MidiLibre.fr.